Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette neuvième causerie de l'économie consacrée à la géopolitique du vaccin avec Philippe Narasiguin, économiste, qui nous concocte depuis maintenant nombreuses semaines eh bien un décortiquage, on va dire, de cette crise au travers de la science économique. Bonjour Philippe Narasiguin.
Bonjour Christophe Porlier.
Alors aujourd'hui, Philippe Narasiguin, nous allons aborder une thématique très 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 importante, puisqu'il s'agit des innovations technologiques. Nous aurons l'occasion de dérouler cette émission en parlant et en abordant les concepts d'innovation, bien sûr, de capitalisme, de croissance, de progrès, de création destructrice. On abordera un auteur que vous appréciez particulièrement, Schumpeter, né en 1883. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui des théories qui remontent finalement au père, aux différents pères du capitalisme. Nous aborderons des concepts d'entrepreneurs, d'activités économiques, de révolution industrielle, de logistique. Bref, un menu qui s'articulera autour des innovations technologiques dans les domaines de la santé et de la connaissance, et puis l'intelligence artificielle. Dans le cadre de la crise Covid-19, comment est-ce que l'intelligence artificielle s'est aujourd'hui mobilisée pour faire face à cette crise? Première question qui, évidemment, est pas des moindres, puisqu'on parle de révolution industrielle. Est-ce que cette période de crise majeure constitue, d'une certaine façon, pourrait préparer une quatrième révolution industrielle?
Alors, pour répondre à la question de savoir si cette crise Covid-19 prépare une quatrième révolution industrielle, il faudrait pouvoir définir ce que c'est une révolution industrielle. En effet, lorsque l'on regarde la situation en 1945, l'Europe est détruite, le Japon est détruit, l'Union soviétique est un pays dévasté. L'Union soviétique a perdu 20 millions de personnes dans la guerre. Un seul pays n'a pas connu la guerre sur son sol, ce sont les États-Unis d'Amérique. La plupart des gens pensent à l'époque qu'on va vivre comme avant la guerre, c'est-à-dire dans des sociétés largement agricoles. Mais si l'on revient un peu plus en avant, nous avons une révolution industrielle qui a commencé en Grande-Bretagne, 18e, 19e siècle notamment. Et il y a, depuis cette période, il y a eu trois révolutions industrielles. Quelles sont ces trois révolutions industrielles? Premièrement, la révolution industrielle britannique, et le vecteur de cette révolution s'appelle tout simplement le machinisme. Pourquoi le machinisme? Parce que la Grande-Bretagne fait face à une explosion démographique considérable. La Grande-Bretagne est un pays pauvre, misérable, qui s'appauvrit avec cette explosion démographique. Et si l'on regarde les auteurs de l'époque, tout le monde se dit que la Grande-Bretagne, comme les pays d'Europe du Nord, qui font face à cette explosion démographique, sont des pays pauvres et vont le demeurer. Et puis il y a quelqu'un dont on parle peu, on parle beaucoup de Schumpeter quand on parle des innovations, mais on oublie de parler de Thomas Malthus, qui est un pasteur anglican, donc un homme d'église, et qui crie à la catastrophe. C'est le principe de population de Malthus qu'il édicte à ce moment-là, Malthus 1798, et qui dit tout simplement, la population britannique croît à un rythme exponentiel, alors que la production agricole croît à un rythme linéaire. Par conséquent, il faut prendre des mesures. Limiter les naissances, espacer les mariages, l'abstinence sexuelle proposée par Malthus. Abolir les aides aux pauvres, dans la mesure où si on aide les pauvres, on va avoir plus d'explosion démographique. Et donc, le terme qui est resté, qui est populaire chez nous, c'est le terme de malthusianisme.
D'accord. Donc là, c'est d'une certaine façon adapter la population aux capacités de production de l'époque
Voilà.
au terme agricole.
Voilà. Et donc, diminuer la population.
Diminuer la population, de
Et
fait.
Malthus ne se rend pas compte à ce moment-là qu'il y a une véritable révolution en Grande-Bretagne. C'est le machinisme. Pourquoi le machinisme? Parce qu'effectivement, il faut résoudre le problème tout simplement de la nourriture. Et la première étape, ce sera le machinisme. Faire des machines pour améliorer quoi? La productivité agricole, les rendements agricoles. Et en réalité, quand on parle de révolution industrielle en Grande-Bretagne, cette première révolution industrielle prend naissance dans les campagnes. on amène des machines modernes qui permettent de multiplier par 3 ou 4 les rendements agricoles. On libère de la main-d'œuvre qui va par la suite dans les usines, dans les grandes villes de Manchester, Liverpool, Londres, etc. Et on met en place le factory system avec la spécialisation. Donc c'est le vecteur sur le machinisme des machines pour les équipements des entreprises. Les machines pour les biens de consommation sont relativement rares. Textile, bien sûr, l'industrie textile britannique qui est
en plein essor
à l'époque. Et puis aussi, machines pour les transports. N'oubliez pas la révolution ferroviaire qui se passe en Grande-Bretagne. Donc, voyez-vous que cette révolution industrielle, c'est une révolution qui touche massivement le monde agricole, de façon très positive, et la Grande-Bretagne arrive à nourrir tout le monde, à multiplier la production agricole, mais qui touche aussi massivement les transports, les ports. La Grande-Bretagne va devenir, grâce à la modernisation de ses ports, la première puissance maritime mondiale, pas l'oublier. Oui. Mais de façon relativement marginale, sauf pour des biens de consommation courante, comme le textile, les meubles, etc., qui touchent donc le secteur des biens de consommation. Changeons de période. L'après-guerre. L'après-guerre, c'est la deuxième révolution industrielle. Elle est menée par les États-Unis. Que signifie ce terme de deuxième révolution industrielle et en quoi elle se différencie de la première? Le vecteur, bien sûr, c'est l'innovation de produits et d'organisations qui va donner lieu à la société de consommation de masse. Désormais, de l'ouvrier au cadre supérieur, en passant par les milieux aisés, le but, c'est que chaque ouvrier, comme disait Ford, doit avoir sa voiture. Et là, il y a une pléthore d'innovations de produits. Par exemple, les radios, le transistor, la télévision, les jouets, l'industrie du jouet, l'industrie agroalimentaire qui conditionne les biens agroalimentaires. Vous savez, les cacahuètes en boîte, par exemple. Tout ça, ça vient des États-Unis. Donc, il faut se rapprocher de la population. Les avions, nous les connaissions en 1939. Les premières apparitions d'avions de combat. Et ces avions de combat vont donner naissance à quel type d'innovation d'équipement cette fois-ci? C'est bien sûr l'aviation commerciale qui prépare le tourisme de masse. Donc vous voyez qu'il s'agit à la fois d'innovation de produits et d'organisation.
Organisation, donc ces produits sont produits de façon plus quantitativement plus importante et il faut les distribuer. Du coup, une petite révolution parallèle sur la dimension approvisionnement, je dirais. On avait abordé cette question de la supply chain dans une autre émission. Est-ce qu'on peut parler de logistique, par exemple?
Alors, c'est le terme qui convient. C'est le terme que je n'avais pas mentionné, effectivement. Il y a aussi une grande révolution qui est derrière cela. Lorsque vous amenez un bien de consommation au plus près du consommateur, ce qui se passe aux États-Unis, et ça, ils l'ont inventé dans la guerre, là encore, une application nouvelle aux organisations, cette fois-ci commerciales et industrielles et agricoles, c'est la révolution de la logistique. Comme les États-Unis sont un grand pays, donc ils vont répliquer ce qui a été fait dans la guerre en matière de logistique, ils sont brillants en logistique, et ils vont apporter, qu'est-ce qu'ils vont créer? Les supermarchés, les hypermarchés, partout, dans les petites villes, dans les villages, dans les villes. Et donc, la logistique permet d'acheminer les biens de consommation au plus près des consommateurs. Donc, très grande révolution logistique aux États-Unis. Et puis, changement de décor, 1980, alors que tout le monde pense que le monde est fini, qu'il n'y a plus de révolution, arrive bien sûr la double révolution de l'informatique et d'Internet. Donc, le vecteur, le troisième temps fort, c'est la révolution des systèmes d'information. De façon générale, et l'économie de l'information qui réorganise les entreprises. Je prends un exemple, les banques. Les banques font des investissements aujourd'hui colossaux en matière de sécurité informatique, notamment, pas que, mais en matière de sécurité informatique. Donc voilà les trois révolutions industrielles, et avant évidemment de voir si on va vers une quatrième révolution industrielle, ce que je voudrais dire, c'est que, au fond, toutes les crises, toutes les périodes de chaos, prépare toujours quelque chose d'incroyable. pensez pas qu'avec des millions de morts, à la Deuxième Guerre mondiale, on allait vivre dans un monde différent. On ne pensait pas qu'en 1980, un nouveau tournant serait pris au niveau des systèmes d'information, de la technologie informatique, d'Internet et des réseaux, des grands réseaux.
Des grands réseaux. Alors, cette grande crise Covid-19, est-ce que on va observer une quatrième révolution industrielle? On a pu observer ces dernières années des grandes avancées technologiques, notamment sur les nanotechnologies. On voit à quel point c'est mobilisé sur les vaccins, par exemple, ces technologies-là. Maintenant, cette quatrième révolution industrielle, on verra au cours de l'émission si effectivement on peut la qualifier. En tous les cas, ces périodes de rupture amènent des changements de grande intensité à un rythme extrêmement rapide. Alors, Philippe Narasiguin, de ce que vous avez observé, quelles sont les innovations directement issues de la crise sanitaire actuelle?
Alors là, on va aborder donc le premier thème. Ce sont les innovations technologiques, mais liées directement à la crise Covid. Donc nous avons préparé le plan là sur l'iPad qui est là. Et donc, on va montrer tout cela à nos téléspectateurs. Alors, partons de ce qui se fait habituellement à Las Vegas, ce fameux Consumer Electronic Show qui a lieu donc tous les ans. Cette année, c'était une rencontre virtuelle. Quelles sont donc ces innovations issues directement de la crise Covid? Bien sûr, vous avez le robot autonome Adibot qui est équipé pour capable de désinfecter des pièces et notamment pour les hôpitaux. Cela réduit les coûts de nettoyage. Cela évite aux agents d'entretien de prendre des risques, hein, parce que là, on est vraiment dans la crise Covid. Et cela assure la sécurité des clients et des visiteurs. On va dérouler un peu plus. Vous avez le patch BioButton qui, bien sûr, détecte les symptômes de la Covid-19.
Il suffit de mettre un patch et...
Voilà, en réalité, ça mesure, ça détecte la température corporelle. Évidemment, il y a les... problème de fièvre lié à la crise Covid, dès qu'on a cette maladie, ce virus. Ça mesure, ça c'est très important, la fréquence cardiaque et pulmonaire. Évidemment, le virus, lui, s'attaque, n'oubliez pas, aux poumons. Et cela, ce patch, détecte les symptômes de l'infection, même si la personne ne se sent pas malade. Donc, vous voyez que là, cette entreprise met l'accent sur la prévention. Vous avez, on va faire un peu de publicité quand même pour une firme française. Je pense qu'on peut le faire dans cette émission.
Bien sûr.
Sur la start-up française X-Rapid, qui a reçu un prix d'innovation au CES de Las Vegas. C'est le masque XL qui est doublé d'un appareil d'assistance respiratoire. Et le principe, c'est que cela fonctionne avec une batterie. Et l'appareil filtre aussi bien l'air à domicile qu'au bureau. Espace de purification, 22 mètres carrés.
Donc ça, ce sont des innovations qui sont directement issues. Alors, ce sont des technologies qui étaient probablement au point avant la crise.
Tout à fait.
Mais qui ont été appliquées aux besoins générés par cette crise.
C'est très intéressant parce que finalement, on voyait finalement qu'au fond, les hôpitaux n'étaient pas si bien nettoyés que ça. La crise Covid oblige les hôpitaux à aller encore plus loin dans les processus d'entretien, de nettoyage, de filtration de l'air. Robot de désinfection d'air, désinfection par lampe UVC, les systèmes de filtration électrostatique qui permettent de traiter 98% des polluants, d'accord ? C'est-à-dire que l'air qui est respiré à l'intérieur d'un bâtiment est extrait à l'extérieur de ce bâtiment et il est purifié. Et donc cela va jouer sur la sécurité des salariés, respiratoire artificiel qui est développé en France par des chercheurs et avec l'aide des industriels. Donc vous voyez que dans ces innovations, il y aura toujours des innovations qui sont éphémères et des innovations qui sont là pour rester. Et c'est dans cette crise qu'on peut voir, par exemple, penser aux maladies nosocomiales, par exemple, qui s'attrapent à l'hôpital. Il est possible que ces innovations jouent un rôle considérable,
majeur
dans la prévention des maladies nosocomiales. Il y a aussi, ce qui est très intéressant, des innovations qui ont eu lieu en Afrique, donc sur l'ensemble des continents, notamment en Afrique du Sud, les pays les plus innovants, Kenya, au Nigeria et au Rwanda. Donc voilà ce qu'on peut dire sur vraiment les innovations liées directement, de façon très précise à la crise Covid, qui s'appliquent à la crise Covid et qui touchent effectivement l'ensemble des infrastructures du monde médical, on va dire, pour faire large. Si on peut penser aussi, bien sûr, aux restaurants, purificateurs d'air pour les restaurants.
Alors, Philippe Narasiguin, donc là, ces innovations technologiques, on le voit, en fonction des pays, chaque pays, on est dans le domaine de l'innovation, donc ça veut dire qu'on peut se saisir d'inventions qui ont été peut-être faites par ailleurs, des brevets qui ont été faits par ailleurs, mais qui vont être mobilisés d'une certaine façon, avec une spécificité dans des pays différents, en fonction des moyens dont on
dispose. En fonction des moyens, tout à fait. Il y a des innovations de procédés, les innovations sont déjà là, les produits sont déjà là, on innove pour l'appliquer à une situation particulière dans un pays donné. Cela s'est fait, par exemple, massivement dans les pays d'Afrique. Si on prend le cas de ces innovations de procédés, il y a aussi des recherches qui sont faites sur les séquençages, par exemple, en Afrique, qui émergent. Il y a des pays qui émergent en matière de séquençage.
Donc on passe en revue ce qui avait été théorisé par Schumpeter. On revient sur Schumpeter, ce théoricien de l'innovation, les innovations de produits, de procédés, de modes de production, de débouchés et de matières premières, les grands cinq domaines qu'il avait identifiés. Alors, si on devait dérouler de la façon dont une innovation technologique est indissociable, évidemment, du mécanisme d'entrepreneuriat, pour évidemment être concurrent, générer de la croissance et donc de la croissance de PIB. Est-ce que, alors, pour le coup, il y a une séquence,
voilà,
j'imagine,
alors, il y a plusieurs séquences. Il n'y a pas qu'une séquence, en réalité. Si on regarde la problématique de l'innovation, il y a bien sûr les innovations qui sortent spontanément de la tête même des entrepreneurs. Autrement dit, ces innovations ne font pas l'objet de recherches fondamentales. Microsoft avec Bill Gates, Steve Jobs qui commence l'ordinateur personnel dans son propre garage avec des copains à l'époque. Et donc, c'est l'innovateur au sens de Schumpeter. Et puis, c'est vrai que depuis, on va dire, les années 60, la recherche fondamentale est venue, y compris dans les grands groupes privés, dans les entreprises privées. Il y a la recherche publique et la recherche fondamentale qui se fait de plus en plus aussi dans ces grands groupes industriels. Et là, effectivement, on peut dire innovation technologique, ça va servir à quoi? Ça va servir, bien sûr, aux applications industrielles. Et la séquence se déroule de la façon suivante, on le voit là sur l'écran. Cela donne lieu à une création d'offres de nouveaux produits. Il y a de la demande de la part des entreprises et ou du grand public, parce que cela, ces innovations peuvent intéresser seulement, par exemple, les entreprises ou le grand public. Pensez, par exemple, au téléphone portable. Et c'est pas si loin que ça, le téléphone portable, finalement.
C'est très contemporain.
C'est contemporain. Et l'innovation, là, est venue d'une entreprise qui s'appelle Nokia. Cela développe de nouveaux marchés. Lorsque les nouveaux marchés sont développés, cela va stimuler la création d'emplois et augmenter le revenu global domestique, donc d'un pays. Quand on dit domestique, c'est d'un pays. Et donc, c'est le schéma qui vraiment relie les innovations technologiques, finalement, à la croissance économique et à la création d'emplois, et donc au plein emploi.
Mais Philippe Narasiguin, d'une certaine façon, les entreprises ou les entrepreneurs sont condamnés à innover pour se sortir d'une concurrence qui peut devenir acharnée et se différencier.
Alors,
sur un marché.
Tout à fait. C'est la thèse de Chamberlain 1933, la concurrence monopolistique. Chamberlain parle dès 1933 de la différenciation des produits. C'est-à-dire qu'au fond, l'innovation est au cœur même du travail de l'entrepreneur. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'une chemise noire ou une chemise blanche. Vous avez des chemises de couleur, vous avez des chemises avec des designs tout à fait différents, vous avez une infinité quasiment de chemises sur la planète, d'accord ? Et de types de coupes, naturellement. Donc c'est vraiment la problématique de Chamberlain, différenciation des produits de 1933. L'entrepreneur innove dans un premier temps par différenciation, tout simplement.
Alors, Philippe Narasiguin, donc on a déroulé cette séquence sur les innovations directement issues de la crise sanitaire actuelle. Et puis, il y a des innovations indirectes, prévisibles, qui peuvent découler de cette crise. Qu'est-ce que vous avez identifié comme...
Alors là, j'ai mis à l'écran là, les innovations technologiques qui, finalement, on va dire, vont dériver. Elles étaient déjà là, mais elles n'étaient pas massives. Elles étaient, disons, marginales. Plusieurs types d'innovations technologiques liées au domaine de la santé et de la connaissance. Voilà. Alors, moi, ce que je retiens en matière de filière pour la santé, c'est les recherches des laboratoires sur les traitements de virus affectant la capacité respiratoire. Et ce qui est intéressant de voir au niveau mondial, c'est que un certain nombre de pays font travailler la recherche privée, les laboratoires privés, avec les départements des armées, qui ont énormément de scientifiques dans certains pays, sur le problème des guerres bactériologiques. On appelle le bioterrorisme, en fait. Effectivement, on voit très bien que même lorsqu'on fait une guerre dans les sommets, le point clé, pourquoi ils ont travaillé avec les départements recherche des armées? Parce que les armées sont très en avance sur les problèmes respiratoires, notamment lorsqu'il faut faire des guerres à plus de 4000 mètres, par exemple, ou 3000 mètres d'altitude. Le problème qui se pose, c'est bien sûr, sans pandémie, bien sûr, hein, en temps normal, c'est la capacité respiratoire des militaires, des jeunes militaires. Et puis, bien sûr, vous avez aussi des recherches qui se font sur, pour les virus qui peuvent affecter massivement les enfants. Là, pour l'instant, la chance qu'on a eue, c'est que ces virus n'ont pas affecté massivement les enfants, ou pas du tout quasiment pour l'instant. Mais on pourrait avoir des virus extrêmement violents qui créent une mortalité importante, considérable chez les jeunes, de façon générale. Et puis, bien sûr, la révolution ARN messager. Pour l'instant, ça a été appliqué au vaccin. Mais si l'on écoute tous les spécialistes de médecine, les professeurs de médecine, les chercheurs dans les domaines médicaux, on s'aperçoit que l'ARN messager va devenir un vecteur pour les maladies que pour l'instant on n'a pas vaincues, comme le cancer et les différents types de cancers. On va peut-être même passer à des médecines personnalisées par rapport à la génétique. Donc c'est vraiment, on va dire, le génie génétique. Et ça, je crois que ça va faire vraiment un bond en avant et le marché là-dessus sera considérable. D'où d'ailleurs la course en pleine crise Covid de certains laboratoires et même de jeunes laboratoires pour traiter des aspects qui sont liés à la crise Covid. Les dépressions, par exemple, pour l'instant, les champignons psychédéliques restaient c'était tabou, en fait. Et aujourd'hui, on a vu, par des traitements, disons, un peu à la marge de la médecine, il faut dire, que ces champignons psychédéliques faits par des spécialistes à la marge, donc sous le manteau, si on peut dire,
que certaines molécules pourraient être,
pouvaient être extrêmement efficaces pour la dépression. Dans cette crise Covid, nous avons eu une montée en puissance des dépressions. Et là, vous avez, je crois que c'est un laboratoire allemand, un jeune laboratoire, qui est start-up allemande, qui travaille sur ce qu'on appelle les champignons magiques dans le traitement des dépressions. Et là, c'est bien sûr des financements. On n'a pas parlé des financements, mais les financements se font massivement sur les marchés financiers. Dans la mesure où les États ne sont pas preneuses de risques, les fondations, on l'a vu avec la problématique de Moderna. Comme le disait le PDG de Moderna, finalement, on n'a pas été suivi par les fondations, on n'a pas été suivi par les États. Heureusement qu'il y a eu les marchés financiers pour nous permettre de mettre au point ce deuxième vaccin à l'époque, ARN messager, à côté de Pfizer. Donc, vous voyez qu'il y a un tourbillon, en quelque sorte, une vague d'innovations qui sont indirectement liées à cette crise et de recherche liées à cette crise Covid. Bien sûr, les filières de la connaissance. Pour la première fois, les étudiants, vous le savez, ont été obligés de faire des cours en ligne, ce qu'on appelle le fameux distanciel. Et on peut effectivement peut-être penser à des universités numériques intégrées, avec des cours en ligne payants, des séances de travaux dirigés, des coachings personnalisés ou en petits groupes. Les avantages peuvent être considérables, d'ailleurs, dans la mesure où les cours peuvent être vus plusieurs fois de suite, autant de fois que nécessaire. Cela limite les erreurs dans la mesure où souvent les étudiants qui ne viennent pas en cours, ils disent à leurs copains, donne-moi tes notes. Mais si déjà sur les notes il y a des erreurs, ils vont faire encore deux fois plus d'erreurs. Ça, c'est vraiment le drame, je dirais, à l'université. Le taux, l'absentéisme. Là, effectivement, ça va limiter les erreurs parce que vous aurez des cours standardisés. possibilité pour le public non étudiant, par exemple salarié, retraité, d'avoir un diplôme complet, master, licence, etc. Au niveau des travaux dirigés, on peut avoir des réponses par écrit. Et là encore, c'est standardisé, parce que les réponses par écrit, évidemment, vous ne pouvez pas dire, quand quelqu'un pose une question, « Ah, voilà comment je développe », et puis après, la personne a oublié la question. Tandis que là, effectivement, les réponses, on l'a vu, nous, dans les MOOC, par exemple, se font par écrit. Et d'autres perspectives, bien sûr, pour ces cours en ligne ou université numérique payante. En France, par exemple, nous n'avons pas encore, vous êtes peut-être mieux informé que moi, d'université en ligne 100% payante dans les différents domaines, que ce soit scientifique, littéraire ou économique, juridique, etc.
Il n'est pas impossible. Hein,
mais il n'est pas impossible, effectivement, que ce marché explose déjà peut-être dans d'autres pays, puis après on y viendra.
Alors nous avons effectivement observé un basculement.
Tout à fait.
Les universités depuis très longtemps se sont emparées du numérique, mais ce basculement lié à la crise, donc ces innovations qui ont dû être faites dans des temps très très courts, ont permis d'assurer aussi la continuité de services publics.
Tout à fait.
Pour la formation des jeunes générations qui ont besoin de se former et de la formation tout au long de la vie.
Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas que les universités publiques laissent la place au secteur privé. Il faut qu'elles registrent vite pour justement s'adapter au monde qui vient. Parce que la question que vous posez est très importante finalement. Et ce monde qui vient, c'est un monde d'opérateurs importants qui lèveront des capitaux sur les marchés financiers, des capitaux considérables, qui vont bâtir des pôles numériques d'enseignement supérieur avec tous les points que j'ai développés précédemment et avec des standardisations.
Donc ça, c'est un sujet d'ailleurs dont les universités publiques doivent se saisir, évidemment, pour rester concurrentielles par rapport à de potentiels nouveaux acteurs sur un secteur qui sera de plus en plus concurrentiel, avec des possibilités de capitaux très très importants.
Tout à fait.
Pour le coup, parce que du coup, si vous avez choisi, les conséquences indirectes de la crise, les filières de la connaissance, ça n'est pas un hasard, c'est que là, il va y avoir très prochainement une concurrence acharnée.
Des ruptures de paradigme, quasiment.
Des ruptures de paradigme. Alors, Philippe Narasiguin, les applications issues de la recherche également, donc on parlait de quatrième révolution industrielle. La question de l'intelligence artificielle, par exemple, et du Covid-19, ça, c'est un point que vous avez aussi identifié comme très important.
Alors, disons que dans le évidemment, quand on parle avec des spécialistes d'intelligence artificielle, ils disent attention. Il faut vraiment préciser de quoi il s'agit, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre un peu de tout dans ce concept d'intelligence artificielle. Et nous allons donc voir ce point donc sur ce qui déjà est fait, mais qui a été fait peut-être à beaucoup plus grande échelle avec dans les différents pays ou dans différents domaines.
C'est vrai que la recherche sur l'intelligence artificielle est extrêmement active aujourd'hui, mais peut-être à l'occasion de cette crise, elle peut encore s'accélérer, elle va probablement s'accélérer et puis se manifester sous des formes différentes que vous avez largement identifiées.
D'accord, tout à fait. Alors donc, pour venir à ce point sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien sûr, en Asie, aux États-Unis, il y a eu énormément d'entreprises, les États qui ont eu recours à cette intelligence artificielle dans le pilotage des données et pour résoudre, bien sûr, des questions tout à fait concrètes. Par exemple, aux États-Unis, on a vu des drones qui assuraient des livraisons de nourriture, de médicaments, de kits de tests. Hein, je reviens sur la page précédente pour bien montrer qu'on est vraiment sur le thème de l'intelligence artificielle. Des drones utilisés pour décontaminer, et ça c'était une première, pour décontaminer sur une grande échelle des zones confinées. Prends l'exemple de l'Asie, souvent ils ont des villes gigantesques, de plus de 20 millions d'habitants.
Oui.
Donc il était impossible, par exemple, dans les drones de surveillance, qui ont été utilisés pour surveiller le respect strict des confinements, le respect des confinements dans les très grandes villes en Asie, ils ont, bien sûr, c'était des drones de surveillance qui ont piloté la crise Covid. Parce que vous ne pouvez pas mettre dans des villes de plus de 20 millions d'habitants un policier dans chaque rue, bien évidemment, pour surveiller si les gens respectent ou non le confinement. Et puis, vous avez aussi l'utilisation de l'IA pour traiter des bases de données sur la santé, indicateurs épidémiologiques, contact tracing, etc. Donc, vous voyez que, et ça, ça pose problème. Bon, c'est vrai que c'est très débattu sur le plan de l'éthique. Est-ce que les grands groupes pourront avoir accès à des données privées, notamment au niveau de la santé? Ça, c'est des thèmes qui ne relèvent pas de nous, bien sûr, mais qui relèvent de l'éthique, des États, des procédures de régulation et de surveillance des entreprises qui, évidemment, vont traiter ces données sur la santé. Le débat est en cours, d'ailleurs, comme vous le voyez sur les chaînes de télévision, dans les médias. Voilà.
Alors, Philippe Narasiguin, c'est vrai que l'intelligence artificielle est probablement mobilisée dans aussi la recherche sur les vaccins ou les traitements, puisque finalement, on a assez peu parlé de des traitements.
Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, parce que dans beaucoup de pays, on est déjà sur les traitements. Dans tous les laboratoires pharmaceutiques dans beaucoup de pays, ce sont les traitements qui, maintenant, prennent le relais, avec le développement des vaccins, de nouveaux vaccins, mais ce sont les traitements qui sont examinés sur le problème du virus Covid-19. Voilà. Donc, effectivement, on attend maintenant les résultats de laboratoires sur les traitements qui seront donnés aux personnes infectées par le virus.
Eh bien, Philippe Narasiguin, nous arrivons au terme de cette émission. Ces 30 minutes ont passé à une vitesse fulgurante, l'accélération du temps probablement. En tous les cas, pour cette neuvième émission des causeries de l'économie, qui sera la dernière de cette saison, puisque nous sommes bientôt en juillet, nous serons prochainement donc dans une période où certaines personnes passeront pour certaines des congés, d'autres feront d'autres activités. Et nous nous retrouverons donc en septembre prochain pour la prochaine émission. Donc on va continuer cette série, Philippe Narasiguin, sur la géopolitique du vaccin, parce qu'on voit qu'elle permet d'aborder un certain nombre de thématiques économiques. J'encourage d'ailleurs les personnes qui nous suivent, les téléspectateurs, les étudiants, les personnes qui s'intéressent à ce sujet, à revoir les émissions qui ont été produites, puisque beaucoup de thèmes ont été abordés sur les grands acteurs de cette géopolitique du vaccin, sur les firmes, les firmes et les États, la crise sanitaire, le choc de décroissance économique dont des concepts clés, l'analyse de déstabilisation de l'économie mondiale, les dettes économiques et non économiques, la mondialisation et la démondialisation, les comportements individuels et les impacts économiques, et enfin cette neuvième émission qui a traité donc des innovations technologiques.
Juste une petite conclusion pour revenir à la question de départ peut-être. C'est au fond, est-ce que vous posiez, peut-être que le téléspectateur attend une réponse, c'est est-ce qu'on est à la veille d'une quatrième révolution industrielle ? Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les innovations se font dans tous les sens et que pour l'instant, il n'y a pas de vecteur. Rappelez-vous au départ, Grande-Bretagne, machinisme. États-Unis, innovation de produits, d'organisation, de logistique. Troisième révolution industrielle, informatique, Internet, réseau. Dans cette quatrième révolution industrielle, ça touche tellement de secteurs qu'on ne sait pas quel est le vecteur principal en fait. Et s'il y a cette quatrième révolution industrielle, ce sera peut-être quelque chose de différent des trois premières. Du point de vue de l'histoire économique, c'est intéressant pour les gens qui s'intéressent aux questions historiques.
Oui, d'autant qu'on en a assez peu parlé des aspects sociologiques, des usages d'ailleurs, le télétravail.
Tout à fait.
Le déplacement, la décarbonisation, un certain nombre de sujets qui seront probablement abordés dans d'autres émissions.
Tout à fait.
Mais qu'on pourra observer aussi à l'issue de cette crise et qui ont fait évidemment des innovations de rupture dans l'organisation sociétale,
voilà,
par le coup.
Tout à fait.
Alors Philippe Narasiguin, donc, eh bien écoutez, nous nous retrouverons très prochainement. Je pense que vous allez avoir l'occasion de nous préparer une saison 2, si je puis dire, parce que c'est finalement, nous venons de terminer la saison 1, il y aura une saison 2 de cette géopolitique du vaccin. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce que vous envisagez la suite?
J'espère pouvoir la préparer cette saison 2 avec autant de thèmes et autant de tableaux différents, si je puis dire. Parce qu'à chaque fois, vous l'avez dit vous-même, on a présenté un tableau différent. Et on a fait quelque chose qui faut que j'encourage, les étudiants, bien sûr, qui font de la science économique, mais au fond, ce qu'on a fait, c'est, à travers les causeries de l'économie, qu'est-ce qu'on a fait? On a décodé l'actualité économique avec les outils de l'analyse économique. L'analyse économique ne doit pas être un slogan, ne doit pas se faire sous forme de slogan, ou les thématiques d'actualité économique ne doivent pas se faire avec des phrases courtes, des idées fausses, ou des raccourcis, si je peux dire. Donc, la nécessité est importante de décoder toute actualité économique avec l'ensemble des outils dont nous disposons. des théories à travers les prix Nobel, notamment d'économie, mais aussi des méthodologies. Et tout cela donne l'analyse économique. C'est important. Et c'est pour ça, moi, personnellement, j'incite vraiment les personnes à venir voir, à regarder les causeries de l'économie dans notre université numérique de La Réunion. Voilà ce que je pourrais dire. Venez nombreux. Et je crois que vous serez satisfaits. En tout cas, je l'espère.
Merci beaucoup pour cette conclusion, Philippe Narasiguin. Et puis, donc, à très bientôt. Pour les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez des informations. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura des petites surprises sur les réseaux sociaux si vous êtes assidus. Donc, eh bien, on vous donne rendez-vous très, très prochainement pour la saison 2 de ces causeries d'économie.